France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Brandt liquidé, 700 emplois supprimés chez le fabricant centenaire d'électroménagers. Le couperet est tombé ce matin, nous serons sur l'un des sites à Orléans dans un instant et nous tenterons de comprendre pourquoi le projet de reprise porté par les salariés n'a pas été retenu. À suivre encore, la mobilisation des éleveurs un peu partout en France, ils s'opposent à l'abattage de leurs troupeaux malades de la dermatose, comme cet éleveur des Hautes-Pyrénées.
Moi j'ai mal dormi la nuit dernière, parce que on se dit que aujourd'hui c'est un collègue, demain c'en est un autre, peut-être après-demain ça sera nous. C'est quand même un traumatisme énorme pour les éleveurs de se voir abattre toutes ces bêtes.
Nous irons sur l'un de ces lieux de mobilisation et nous nous demanderons aussi pourquoi l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire recommande d'abattre les troupeaux. Son directeur général sera notre invité. Nous parlerons également de l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. Elle a réussi à quitter son pays il y a quelques heures, à rejoindre la Norvège pour y recevoir son prix Nobel de la paix. Question, les États-Unis l'ont-elles aidé dans cette fuite?
Yes, we did get support from the United States government.
Oui, j'ai reçu le soutien du gouvernement américain. Voilà ce que vient de déclarer l'opposante vénézuélienne. Et nous l'écouterons plus longuement dans un instant. À partir de 13h30, nous parlons d'un cadeau incontournable des fêtes. Le parfum, confronté au phénomène des dupes. Ces parfums qui ressemblent beaucoup à ceux des grandes marques, mais en moins cher. Vos questions pour nos invités. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Là, c'est vraiment du luxe. Le caviar d'Aquitaine vient d'obtenir son indication géographique protégée. Découverte avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'humoriste Alex Good, demande Lara Fabian.
C'est une chanson qui a assez marqué ma vie, au point d'ailleurs que je l'ai mise dans un de mes spectacles. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lara Fabian, parce que je lui ai dit, venez voir le spectacle, j'ai mis une de vos chansons dedans. Et c'est une personne incroyable, enfin c'est quand même un génie.
Je t'aime, Lara Fabian avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Brandt, mais aussi Vedette, De Dietrich, Sauter. Pendant des dizaines d'années, ces marques d'électroménager ont équipé les Français en lave-linge, en four et autres cuisinières. Et bien cette histoire s'est achevée ce matin à Nanterre avec la décision du tribunal des activités économiques de liquider le groupe en raison de ses importantes difficultés financières. 700 emplois vont être supprimés sur les sites d'Orléans et de Vendôme, dans le Loiret et le Loiret-Cher, mais aussi à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise. Pourtant, les salariés portaient un projet de reprise sous la forme d'une SCOP soutenue par les collectivités locales, mais il n'a pas été jugé assez solide. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct devant le site Brandt d'Orléans. Comment réagissent les salariés ?
Eh ben, ils sortent tout juste d'une réunion avec les élus locaux, les avocats du comité social d'entreprise. Les rares qui acceptent de parler sont évidemment très émus au bord des larmes, comme Eric à l'instant qui nous racontait ses 33 ans de boîte, cette décision vécue ici comme un coup près devant les grilles de cette usine qui tournait déjà au ralenti depuis plusieurs mois. Abdelkrim est un ancien syndicaliste du site orléanais. Il est venu ce matin soutenir ses ex-collègues. Il est lui aussi très amer.
Il y avait 2500 ici au début, et puis il y a eu des dépôts de bilan, et puis voilà. Les ateliers sont à moitié vides.
Et aujourd'hui, la fermeture.
Et puis là, c'est la fermeture totale de tout le groupe. De toute façon, s'il y avait une SCOP, il y aurait quand même plus de 300 licenciements. Mmh. Parce qu'à chaque fois, c'est des travailleurs qui restent sur le carreau. C'est quand même dégueulasse.
Et la SCOP qui a suscité, malgré tout, des espoirs, vous le disiez ces derniers jours ici.
Le groupe Brandt, Alexis, perdait de l'argent, on peut expliquer cette décision ?
Oui, il aurait fallu au bas mot 20-25 millions d'euros pour sauver les usines du groupe, plombées par des années de recul des ventes de gros électroménagers, encore moins 4% l'année dernière en France, lié aussi à la crise de l'immobilier, moins d'achats de logements neufs, c'est forcément moins d'achats d'équipements de la maison, sans parler évidemment de la concurrence chinoise.
Alexis Morel, je vous garde en ligne depuis Orléans, on parlait de ce projet de reprise, les collectivités s'étaient mobilisées pour ce projet de société coopérative et participative. Un peu sur le modèle de ce qu'a fait Duralex. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y avait notamment dans le tour de table la région Centre-Val de Loire. Alors cette décision de liquidation ulcère aujourd'hui son président, le socialiste François Bonneau. Voilà ce qu'il ressent.
La stupeur parce que on a tout fait pour monter, remonter ce projet industriel. autour de marques qui ont de la valeur, qui ont du sens pour nos concitoyens. On a mobilisé l'action publique à un niveau jamais atteint. La région a plus de 7 millions d'euros, la métropole d'Orléans, tout pareil. L'État venant en soutien. On a des salariés qui sont mobilisés dans l'aventure avec une SCOP. Toutes les conditions sont réunies pour que le Made in France prenne sens. La question que je pose, c'est quelle crédibilité peut-on avoir quand on parle du Made in France, alors que lorsque tout le monde est aligné pour faire que le Made in France reste en France, eh bien, on perd.
François Bonneau, président de la région Centre. Alexis Morel, on vous retrouve. Pourquoi cette décision de liquidation? Au fond, il y avait l'apport de ces collectivités, de l'État aussi. Le gouvernement pointe ce matin la responsabilité des banques.
Oui, à Bercy, ce midi, on rappelle que l'État a mis 5 millions d'euros sur la table, les collectivités locales près de 15 millions, que ça c'était une forme de garantie solide derrière le projet de SCOP. Mais on pointe à mots couverts le manque de bonne volonté des banques françaises pour sauver un fleuron du pays. Une marque, je cite encore Bercy, présente dans des millions de foyers. Elles avaient leur rôle à jouer, nous dit-on au gouvernement. Elles ne l'ont pas fait pour quelques millions supplémentaires. On parle de 8 millions qui manquaient pour boucler le dossier. Voilà ce qu'on regrette ce midi dans l'entourage du ministre de l'économie, car vous le disiez, c'est aujourd'hui le dernier grand fabricant d'électroménager français qui disparaît, Jérôme.
Merci Alexis Morel, en direct d'Orléans avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Direction les Bordes sur Arize maintenant, dans le nord du département de l'Ariège, commune qui est le théâtre depuis plus de 24 heures maintenant d'un bras de fer entre des centaines d'agriculteurs d'un côté et la préfecture de l'autre, car ces éleveurs s'opposent à l'abattage d'un troupeau de plus de 200 bovins touchés par un cas de dermatose nodulaire. Alors, ils bloquent les routes qui mènent à la ferme. Sur place, Théo Cobel.
Oui, les agriculteurs qui se préparent au rapport de force positionné avec leurs tracteurs de chaque côté de cette route qui mène à la ferme. Plusieurs niveaux de barrages pour tenter de bloquer le plus possible une avancée des forces de l'ordre. La tension qui est vraiment montée d'un cran ici il y a un peu plus d'une heure, tout juste lorsque les représentants du mouvement ont annoncé le rejet par les services de l'État du protocole d'accord, celui proposé hier par les syndicats agricoles et donc l'arrivée possible des forces de l'ordre pour permettre l'abattage des bêtes par les services vétérinaires. On a vraiment senti dans la foule une colère monter, une détermination aussi pour sauver ces 207 vaches et pour soutenir également l'agriculteur touché. Les manifestants qui se sont donc positionnés et s'échangent en ce moment des vidéos prises un peu plus bas dans la vallée où on voit justement les fourgons de CRS avancer.
Précision Théo Cobel, ici Occitanie. Je précise que la mobilisation est la même dans le département voisin des Hautes-Pyrénées, commune de Luby-Bêtement. Premier cas, là aussi dans ce département, et l'abattage du troupeau est prévu demain. Il y a déjà plusieurs dizaines d'agriculteurs sur place. Nous verrons dans une minute avec notre invité pourquoi le ministère de l'Agriculture prend cette décision d'abattage. D'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur l'aspect politique avec vous. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour Jérôme.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a face à elle des syndicats qui sont très remontée.
Oui, avec qui le dialogue est de plus en plus difficile. Elle n'a par exemple toujours pas rencontré le nouveau président de la coordination rurale, Bertrand Vanteau, élu il y a un peu plus de 3 semaines, avec pour ambition, je cite, de faire la peau aux écolos. Annie Genevard a condamné ses propos et retarde leur tête-à-tête pour bien montrer sa prise de distance. Au ministère, certains s'interrogent sur l'attitude de la coordination rurale. Souhaite-t-elle vraiment un jour être un acteur du dialogue source de solutions? Sa radicalité pousse les autres syndicats à hausser le ton. FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Confédération Paysanne. La FNSEA, par exemple, boycottait lundi à Rungis le lancement d'une consultation sur la souveraineté alimentaire, alors qu'il était il y a encore quelques années l'interlocuteur numéro 1. Quand arrive l'hiver, les agriculteurs ont toujours plus de temps pour se faire entendre. L'an dernier, l'examen et l'adoption du projet de loi agricole avaient permis de calmer certaines ardeurs. Il y a 2 ans, ça avait été le feu avec, on s'en souvient, un terrible salon d'agriculture pour Emmanuel Macron. Là, il y a dans l'exécutif la crainte que les fils se touchent, comme dit un ministre. L'absence de budget, la dermatose, le traité du Mercosur en passe d'être adopté. Le tout est donc suivi de près à l'Élysée, à Matignon, au ministère, mais sans trop d'illusions, nos leviers sont modestes.
Décryptage Maxence Lambrecq. Bonjour Gilles Salva.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Directeur général par intérim de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, celle qui fait ses recommandations au ministère. Gilles Salva, on a besoin de comprendre quelle est votre stratégie face à la dermatose nodulaire. Il y a cette mesure d'abattre l'ensemble d'un troupeau dès le premier cas de maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, alors c'est une maladie qui est très contagieuse entre animaux. Alors, qui peut être aussi transmise d'un élevage à l'autre par des insectes piqueurs, mais par exemple des tangs ou des stomox. Mais ces insectes piqueurs, en ce moment, du fait des températures et du fait de l'hiver, ne sont plus très présents. Donc, c'est pas tellement ce risque-là qui est visé. C'est bien le risque de contagion à l'intérieur du troupeau et le fait que, à partir du moment où un animal est contaminé, le troupeau peut être dans son ensemble contaminé. Et donc, la stratégie est d'abattre l'ensemble du troupeau pour éviter la propagation aux troupeaux les plus proches autour de ces fermes et de vacciner les troupeaux qui se trouvent autour de ces fermes dans un périmètre qu'on définit comme la zone de vaccination.
On ne peut pas vacciner par exemple toutes les bêtes d'un département touché et abattre uniquement les animaux malades, ça ne marcherait pas.
Alors ça ne marcherait pas parce que en fait cette maladie a une incubation assez longue de 2 à 3 semaines, souvent 3 semaines. Et donc, en fait, on serait amené à régulièrement abattre des animaux dans un troupeau parce que le virus est passé d'une vache à l'autre et que donc on entretiendrait en quelque sorte la maladie dans le troupeau, sachant qu'en plus, le virus survit dans les croûtes qui sont associées à cette maladie. Et dans les croûtes, le virus peut survivre pendant plusieurs semaines, et donc continuer à contaminer l'environnement du troupeau.
Mais vous voulez dire, par exemple, dans le cas de cet éleveur de l'Ariège, si on abattait que les animaux malades ou sur lesquels on a un risque de où il y a une suspicion, on finirait à terme par devoir quand même abattre tout le troupeau, parce que les animaux finiraient par être malades?
Alors, tous les animaux, peut-être pas, parce qu'on n'a pas toujours, une contagion à 100%. Hein. Je rappelle que c'est une maladie qui tue entre 10 et 20% des animaux qui sont touchés. Mmh. Et que la morbidité, c'est-à-dire le nombre d'animaux malades dans un troupeau, peut atteindre 45 à 50%. Donc c'est une maladie extrêmement contagieuse. Et si on laisse la maladie se propager dans le troupeau, il y a un risque important que 100% des animaux à terme puissent être malades. Donc c'est la raison pour laquelle cet abattage qui, on le comprend bien, est dramatique pour les éleveurs qui ont des animaux contaminés. Ouais. Est nécessaire pour protéger l'ensemble du troupeau en France.
Gilles Salva, est-ce que cette stratégie fonctionne? Là, on voit que la maladie, elle apparaît dans de nouveaux départements, Ariège ou Pyrénées.
Oui, alors cette stratégie fonctionne à condition qu'il n'y ait pas des échanges dans les zones contaminées, les échanges d'animaux, les sorties d'animaux des zones contaminées, des périmètres potentiellement contaminés sont interdits. Il y a vraisemblablement à l'origine de ces cas des transferts d'animaux contaminés apparemment non contaminés, mais qui probablement portaient le virus. Et qu'on a déplacé. Et c'est vraiment le message qu'on veut envoyer, c'est de ne pas déplacer les animaux. C'est interdit. C'est contrôlé par un certain nombre de mesures de police. La gendarmerie est mobilisée pour ça. Mais évidemment, les autorités ne sont pas tout le temps partout pour contrôler tout ça.
Merci Gilles Salva pour vos explications. Directeur général par intérim de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. J'ajoute que dans le département de la Nièvre, là, le préfet a décidé hier de suspendre temporairement un abattoir. L'abattoir de Cosne-Cours-sur-Loire en raison d'accusations d'actes de cruauté sur les animaux. Une enquête de l'association L214, Images à l'appui, affirme que des bêtes y ont été découpées vivantes. Et tout cela sous les yeux, selon l'association des services vétérinaire de l'État. Voilà plus de 3 mois maintenant que la cour d'assises du Doubs entend les victimes et familles des victimes de l'hôpital de Besançon. 30 patients empoisonnés, dont 12 sont morts entre 2008 et 2017. C'est le procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier qui continue de nier les faits. Les réquisitions ont débuté ce matin. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès pour Inter. La culpabilité de l'accusé est certaine. Voilà ce qu'ont dit ce matin les deux avocats généraux.
Oui, implacables, les deux avocats généraux ont commencé à dérouler un réquisitoire au terme duquel, préviennent-elles déjà, tout démontrera que Frédéric Péchier est coupable. Ça ne peut être que lui, uniquement lui, personne d'autre, insiste-t-elle. L'auteur de ces 30 empoisonnements, le médecin qui a réalisé l'impensable, l'inimaginable, qui a détourné le médicament pour en faire un poison, le crime le plus diabolique qui soit, développe Christine de Curez, la magistrate qui a travaillé pendant 9 ans à temps plein sur ce dossier complètement dingue, précise-t-elle. Frédéric Péchier n'est pas un monstre, enchaîne sa collègue Thérèse Brunisseau. Les monstres n'existent pas. Il n'est ni Guy Georges, ni Michel Fourniret, mais il n'en est pas moins un tueur en série, un médecin d'apparence parfaite qui a réalisé le crime parfait, dissimulé sous sa blouse blanche, qui nous a entraînés dans les tréfonds de l'inhumanité. Intelligent, redoutable, discret, insoupçonnable, il a utilisé la médecine, la plus belle profession qui soit, comme instrument de mort. D'autres l'ont fait sous le nazisme, puis Christine de Curèze. Ce pouvoir de donner la mort, ce frisson de l'omnipotence pour aller tutoyer Dieu, tout ceci en fait de Frédéric Péchier un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française.
Jean-Philippe Degnaud en direct de Besançon, fin des réquisitions demain. On connaîtra alors la peine demandée. Frédéric Péchier risque la perpétuité. Le verdict, lui, n'est pas attendu avant la fin de la semaine prochaine. À Toulouse, aujourd'hui, c'est l'avenir du futur autoroute A69 entre Toulouse et Castres qui se joue. En février dernier, le tribunal administratif avait annulé l'autorisation environnementale des travaux. Mais l'État avait décidé non seulement de poursuivre le chantier, mais aussi de faire appel de cette décision. Et en début de semaine, le rapporteur public lui avait donné raison. Reste à savoir s'il sera suivi par la Cour administrative d'appel. C'est l'enjeu de l'audience qui se tient depuis ce matin et à laquelle assiste Clotilde Jupon.
Une audience extrêmement suivie ce matin à Toulouse. Le rapporteur public s'est bien prononcé pour la poursuite du chantier de l'autoroute A69. Ce n'est pas vraiment une surprise. Ses conclusions écrites sont connues depuis 2 jours. Le magistrat estime que la décision du tribunal administratif qui avait stoppé les travaux en février n'était pas fondée et que la future autoroute entre Castres et Toulouse est bien d'intérêt public majeur, critère essentiel pour valider les autorisations environnementales. En face, les avocats des opposants contestent coûte que coûte. C'est leur dernière chance. Ils insistent sur les impacts environnementaux du tracé, les destructions de milieux naturels et d'espèces protégées et dénoncent un projet d'un autre temps. La salle d'audience, vous le disiez, est pleine, archi-pleine, et plusieurs dizaines de militants attendent toujours à l'extérieur, même après plus de 3 heures d'audience.
Et la décision n'est pas attendue avant plusieurs semaines. Précision signée ici, Occitanie, le siège national de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, a été vandalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce siège est installé dans les fonderies royales à Rochefort. Voilà ce que dénonce l'association aujourd'hui, qui dit être la cible d'actes de vandalisme revendiqués, selon elle, par les membres du syndicat Coordination Rurale. Sur place ont été retrouvés des tags injurieux, des pneus et des ballots de paille surmontés d'une tête de sanglier décapité. Voilà ce que dit la LPO. 71 000 livreurs indépendants travaillent dans notre pays, la plupart sont des livreurs de repas, selon l'autorité de régulation du secteur. Et quelques-uns de ces livreurs manifestaient ce matin à Paris contre un phénomène dont ils sont régulièrement les victimes. Bonjour Claire Sergent.
Bonjour.
Vous êtes allée à leur rencontre. Ils se font débrancher par les plateformes qui les emploient. Uber Eats, c'est ça?
Oui, exactement. Ils se sont réunis devant le siège parisien d'Uber Eats, en plein cœur du Marais. Leur objectif, faire le plus de bruit pour forcer la plateforme à leur parler. Et derrière le microphone, le représentant syndical Fabien Tosolini d'Union Indépendant.
Depuis le mois de septembre, on a plus de 350 livreurs qui ont été désactivés pour ce qu'on appelle partage de compte. Et le partage de compte, c'est j'ai donné mon compte à quelqu'un d'autre. Tous ces livreurs-là disent aujourd'hui non. Nous, c'est notre compte, ce sont des livreurs qui travaillent depuis 3, 4, 5 ans. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que ces livreurs sont suspendus à vie.
Ils accusent la direction de ne pas justifier ces radiations sur la porte, les fenêtres de l'immeuble. Les noms des livreurs désactivés sont accrochés, chaque nom est barré d'une croix rouge. Freddy a été suspendu depuis quelques semaines et depuis, c'est un parcours du combattant pour prouver son identité. Uber Eats a supprimé tout contact humain.
J'ai été dans les restaurants pour demander au manager une confirmation que c'est bien moi qui vois tous les jours et ça suffit pas à Uber. Et même de toute façon, j'ai été obligé d'envoyer ces informations via Union Indépendante puisque sur l'application Uber, on n'a pas du tout la possibilité de leur envoyer quoi que ce soit. Sachant déjà qu'on ne sait pas quoi leur envoyer, donc on fait tout et n'importe quoi, justifiant que c'est bien nous, mais ça ne suffit pas.
La plateforme dit avoir proposé une réunion au syndicat sans réponse de leur part. Mais ces derniers affirment qu'Uber Eats n'a jamais cherché à justifier les suspensions. Ils entendent monter une action de groupe devant la justice.
Reportage signé Claire Sergent.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
L'aide militaire des Occidentaux s'amenuise. La pression de Donald Trump pour accepter un cessez-le-feu est à son maximum. Mais les Ukrainiens parviennent toujours à frapper la Russie. Leur armée a mené la nuit dernière l'une des plus grandes attaques de drones depuis le début de la guerre. Un peu moins de 300 drones lancés. Tous interceptés et abattus selon Moscou, mais le trafic de plusieurs aéroports russes a tout de même été paralysé. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Vous êtes rendu à plusieurs reprises en Ukraine, faute de missiles ou de bombes. Ces drones low cost restent une carte maîtresse pour l'Ukraine.
Oui, ils sont même devenus un pilier majeur de sa stratégie militaire. Aujourd'hui, l'Ukraine ferait décoller jusqu'à 9000 drones par jour. Des appareils de toutes sortes. Il y a des drones kamikazes pour détruire des blindés, des drones guidés par fibre optique, impossible à brouiller, ou encore des drones maritimes, comme ceux qui ont quasiment neutralisé la flotte russe en mer Noire. L'an dernier, l'Ukraine aurait produit 1,5 million de drones. On parle de 3 fois plus cette année. En tout, 200 fabricants, donc capables de produire des engins relativement simples et bon marché, mais adaptés au terrain. Et cette production, elle s'est faite au départ avec des composants relativement simples, assemblés, je l'ai vu parfois, pas dans des usines, mais dans de tout petits hangars anodins, des ateliers qu'on cache dans des bâtiments civils pour ne pas risquer qu'ils soient pris pour cible par l'armée russe. Ce système D, bien, il s'est prodigieusement développé. L'an dernier, les drones auraient causé 60% des pertes russes. Ils peuvent frapper désormais des cibles stratégiques jusqu'à plus de 1000 km en territoire russe. Une expertise dont même les États-Unis cherchent à profiter puisqu'un drone deal, un accord, est en discussion à ce sujet entre Kiev et Washington.
Merci Claude Guibal. J'ai bien bénéficié d'une aide américaine pour sortir du Venezuela. Voilà ce qu'a dit il y a quelques minutes la principale opposante au président vénézuélien Nicolas Maduro, Maria Corina Machado, qui recherchait dans son pays, a donc réussi à rejoindre clandestinement la nuit dernière la Norvège, où lui avait été remis le prix Nobel de la paix. Après s'être affiché pour la première fois en public depuis un an la nuit dernière au balcon de son hôtel à Oslo, elle s'est exprimée ce matin devant le Parlement norvégien.
Je ne pense pas qu'ils aient su où j'étais et ils auraient certainement tout fait pour m'empêcher de venir ici. Je voudrais remercier tous ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour que je puisse être ici aujourd'hui. Un jour, je pourrai vous le dire, car je ne veux certainement pas les mettre en danger pour l'instant. Ça a été une expérience assez forte, mais je pense que ça vaut la peine d'être ici avec vous pour raconter au monde ce qui se passe au Venezuela, ce que ça signifie pour vous en tant que Norvégiens et Européens, ou pour tous ceux qui viennent d'ailleurs, pourquoi le Venezuela compte pour le monde. Je veux dire, quand on se bat pour la liberté, on se bat pour l'humanité.
Maria Corina Machado, ce matin à Oslo. Les députés autrichiens ont voté il y a quelques minutes l'interdiction du voile islamique à l'école pour les filles de moins de 14 ans, mesure adoptée à une large majorité. Seuls les députés écologistes ont voté contre, car selon eux, cette loi est inconstitutionnelle. L'Australie, elle, accueille aujourd'hui ses premiers migrants climatiques. Ils viennent de Tuvalu, une île du Pacifique en proie à la montée des eaux. C'est la suite d'un accord conclu entre les deux pays il y a 2 ans. Plus d'un tiers des 11 000 habitants de Tuvalu avaient demandé un visa climatique pour émigrer en Australie. Le nombre des visas a été limité à 280 par an. On sait le désarroi des jeunes parents qui se posent des milliers de questions dans les premiers mois de vie de leur bébé. Jusqu'ici, ils pouvaient se tourner pour avoir des réponses vers leurs proches, vers des livres ou encore vers Internet. Et voilà, l'intelligence artificielle prête à leur répondre. Pourquoi je vous en parle? Parce que le fondateur d'OpenAI, le père de l'une des intelligences artificielles les plus célèbres, ChatGPT, c'est Sam Altman, a donné une interview il y a quelques jours à la télévision américaine. Et quand on lui a demandé comment il prenait soin de son petit garçon âgé de 8 mois, voilà ce qu'il a répondu.
Je ne vois pas comment je pourrais prendre soin d'un bébé sans l'aide de ChatGPT. Alors je sais bien que les gens ont fait sans pendant longtemps, hein. Mais je me repose tellement sur lui, je l'utilise tout le temps.
Élever ChatGPT pour avoir un enfant, pour s'en occuper en tous les cas. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
Avant de savoir si c'est une bonne idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour cela, faut d'abord dire que beaucoup de parents l'utilisent déjà.
Ah oui, un parent sur deux aux États-Unis pour des conseils d'éducation. Étude de 2024, ce chiffre a sans doute beaucoup augmenté depuis. Selon une autre étude américaine, les parents jugent ChatGPT plus digne de confiance que les experts santé pour les conseils sur les médicaments en vente libre pour leurs enfants. Aussi digne de confiance pour le sommeil et l'alimentation.
Alors, est-ce une bonne idée de demander des conseils à ChatGPT ? Vous avez essayé, Stéphane ?
Oui, avec l'une des questions les plus posées par les parents à ChatGPT. ChatGPT, mon bébé a du mal à s'endormir le soir. Donne-moi des conseils.
Tu peux essayer de mettre en place une routine apaisante comme un bain tiède, un petit câlin ou une histoire douce avant le coucher. Assurer une ambiance calme et tamisée dans la chambre peut aussi aider.
Alors justement, poussons un peu le test. Ouais. Est-ce que ChatGPT peut chanter une souris verte à notre place, à notre bébé ?
Je peux certainement te réciter les paroles ou te donner des idées, mais je ne peux pas vraiment chanter de manière audio.
Pas chanter de manière audio, c'est non. Donc, dernier essai, un piège. Est-ce que je peux laisser mon bébé seul 5 minutes pendant que je vais à la pharmacie ?
Il est recommandé de ne pas laisser un bébé de 6 mois seul, même pour quelques minutes. C'est toujours plus sûr de demander à quelqu'un de confiance de veiller sur lui ou de l'emmener avec toi si possible. La sécurité du petit est vraiment la priorité.
ChatGPT n'a que 3 ans, mais il est de plus en plus raisonnable.
ChatGPT ne dit pas de bêtises, mais il n'est pas forcément très très utile pour l'instant. Voilà ce que je retiens. Merci Stéphane Jourdain. Nous avons parlé de maltraitance animale un petit peu plus tôt dans ce 13-14. Voilà une initiative à saluer. À Laval, l'agglomération de Laval a sélectionné, dans le cadre du projet de budget participatif, le projet d'une adolescente qui veut protéger les hérissons menacés d'extinction. Elle va bénéficier de 2000 euros d'aide pour son projet. Elle s'appelle Pauline Ilan. Elle a 12 ans. Elle veut créer des passages dans les jardins, des passages protégés pour les hérissons. Raphaël Aubry l'a rencontrée.
Pauline Ilan veut d'abord nous montrer dans le jardin de ses parents ses cabanes pour hérissons.
Celle-ci est réalisée avec un cageot de bois qui sert plutôt de réfectoire, c'est-à-dire pour poser des croquettes ou de l'eau. Et celle qui est juste ici, c'est plutôt une cabane pour qu'ils puissent dormir. Elle est isolée en haut et en bas pour pas qu'ils puissent attraper le froid. Bah en fait, j'ai une passion déjà depuis toute petite pour les animaux, mais j'ai vu que de plus en plus, il y a de moins en moins d'hérissons.
Une adolescente qui a déjà son futur métier en tête.
Avocate, mais en rapport avec les animaux, justement.
Avant de plaider, Pauline Ilan souhaite donc pour l'instant créer des routes pour hérissons. Comprenez des passages entre les jardins et dans les espaces verts.
C'est pour faire une déviation pour pas qu'ils puissent passer sur la route et possiblement se faire écraser. Ce que ça m'arrive souvent d'en voir dans mon quartier, là, par exemple, il n'y a pas longtemps, on avait vu un hérisson qui avait des larves de mouches sur lui. Du coup, bah, on l'a aidé, mais il était dans un état pitoyable.
Une idée encouragée par des scientifiques partout dans le monde. Elle est soutenue par Mayenne Nature Environnement. Thomas Pic est chargé de mission dans l'association.
En France, on a une grande responsabilité parce que les populations sont en déclin mais sont encore importantes. Contrairement aux populations par exemple en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas qui ont déjà fortement décliné.
Des flyers seront bientôt distribués dans l'agglomération de Laval. Il y aura aussi dans les prochaines semaines des réunions pour présenter ces routes pour hérissons.
Portrait signé Raphaël Aubry, ici Mayenne, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, tout ce que vous voulez savoir sur le commerce du parfum, les prix, les dupes, les contrefaçons, ce qui n'est pas la même chose, les tendances, j'attends vos questions et remarques de consommateurs et consommatrices, 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton avec un patrouilleur d'autoroute dans le Gard, vous verrez qu'il constate des comportements d'automobilistes proprement hallucinants. Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Marie-Luce, avec vous du caviar, mais pas de Russie.
Et oui, et nous allons voir Jérôme que cette histoire de caviar en France, elle s'est écrite un peu par hasard, avec le concours réel ou imaginaire d'une princesse russe et la volonté d'une poignée d'éleveurs d'esturgeons basés dans le sud-ouest.
Et avec vous Frédéric, un humoriste.
Il est également animateur télé, auteur de théâtre et metteur en scène, il s'agit d'Alex Good. Deux de ses spectacles se jouent en ce moment à Paris et avec lui, nous écouterons la voix de Lara Fabian, une voix qui lui donne des frissons dès qu'il l'entend.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Je suis chef d'entreprise et je passe trop de temps sur l'administratif.
Heureusement, Banque Populaire propose un service accessible depuis mon espace client pour gérer factures et notes de frais très facilement. Du coup, je commence à anticiper la réforme sur la facturation électronique et je me consacre à ce qui compte vraiment, mes clients.
Apporter des solutions innovantes, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Étude Kantar PME PMI 2025. 14 banques populaires, première banque des PME. Voir conditions générales de banque à distance et tarifaires sur banquepopulaire.fr ou dans votre agence.
Anne Berest, après le succès de la carte postale, à qui s'adresse votre nouveau roman Finistère ?
À tout le monde, bien sûr. Mais je dirais peut-être plus particulièrement aux pères et aux filles qui ont parfois du mal à communiquer, qui sont pudiques. Il s'adresse aussi à la jeune génération. Je continue de raconter une histoire de France, la guerre, mais aussi les années 68, l'engagement politique, le féminisme.
Oui, c'est aussi une grande déclaration d'amour à la Bretagne.
Vous avez raison. Il y a beaucoup d'amour dans ce livre.
Finistère, d'Anne Berest. Un grand roman d'amour et de transmission chez Albin Michel.
France Inter, partenaire de la haine. Après l'énorme succès de la première saison de représentation, récompensée par de nombreux prix, retrouvez Vince, Hubert et Saïd dans cette incroyable adaptation scénique du film culte de Mathieu Kassovitz, portée par une musique originale et mêlant danse, cinéma, rap, théâtre et spectacle vivant. La haine, jusqu'au 4 janvier à la scène musicale et en tournée avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme Cadet, bonjour à tous.
Encore de la grisaille cet après-midi.
Oui, sur la moitié nord, le ciel va rester couvert, comme ce matin, avec des brumes persistantes. On peut même avoir quelques pluies entre la Bretagne et la Normandie, des plus faibles. Et ça, ce sont les prémices d'une nouvelle perturbation qui sera un petit peu plus costaud et qui va arriver dans la soirée sur le nord-ouest. Pour la partie sud, plus calme. On a encore des nuages bas qui sont quand même nombreux sur le Languedoc-Roussillon. Mais ailleurs, de l'Aquitaine à la région PACA, sur le massif central et même la Corse, le ciel est plus lumineux, avec un soleil plus ou moins voilé.
Un mot des températures, Céline, notamment du week-end qui arrive, en baisse aujourd'hui, mais toujours au-dessus des normales de saison.
Oui, alors ce week-end, elles vont remonter, mais aujourd'hui, effectivement, elles sont en baisse, surtout sur la moitié nord à cause de la grisaille. On reste quand même encore 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Comptez 9 à 13 degrés sur le nord, 12 à 16 pour la moitié sud, jusqu'à 18 degrés même à Biarritz et Ajaccio. Et pour l'instant, à échéance raisonnable, nos prévisionnistes à Météo France n'ont aucune trace d'un possible retour de l'hiver.
Très bien, j'aime bien les précautions que vous prenez. Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est un secteur qui ne connaît pas la crise et surtout avant les fêtes, la parfumerie. 6% de croissance pour ce marché ces dernières années, portée notamment par une clientèle jeune, mais une clientèle qui n'hésite pas à se détourner des grandes marques de luxe, pour autant qu'elle retrouve sous d'autres noms, un produit qui ressemble beaucoup à son parfum préféré, mais en moins cher. C'est le phénomène des dupes qui prospère en ce moment. Nous en parlons avec nos invités. Stéphanie Berland, bonjour.
Oui, bonjour.
Avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, vous intervenez régulièrement dans des dossiers d'imitation ou de copies de parfums. Avec nous également Agnès Brissiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice monde de l'offre parfum chez Sephora, chaîne de magasins de parfums mais aussi de cosmétiques. 01 45 24 7000 pour vos questions, pour être avec nous, pour réagir. Vous passez également via l'application Radio France et donc l'onglet Réagir. Agnès Brissiot, quelle part de votre chiffre d'affaires est-ce que vous réalisez sur les parfums en ce mois de novembre ? C'est un mois particulièrement important pour vous ?
Alors oui, tout à fait. Hein. La période de Noël, novembre-décembre, c'est à peu près un tiers de nos ventes en parfum. Donc
un
c'est
tiers.
Une très grosse période, bien plus forte que la Saint-Valentin ou la fête des mères, par exemple.
Et ça, c'est stable ?
Et ça, c'est
relativement... Ou alors on a tendance à acheter du parfum maintenant un peu toute l'année ?
Alors, c'est relativement stable quand même, l'impact de Noël.
J'ai parlé de ce chiffre de croissance de 6%. Vous confirmez la croissance du chiffre d'affaires sur la parfumerie ces dernières années. Il y a un appétit pour ce produit ?
Alors, il y a un appétit pour ce produit. La catégorie parfum se porte bien et les jeunes générations, effectivement, sont très intéressées sur cette catégorie et beaucoup de nouvelles marques aussi qui viennent... ravir leur cœur, j'ai envie de dire.
Vous savez expliquer pourquoi les jeunes, en 2025, consomment davantage de parfums que les générations précédentes ?
Alors, est-ce qu'elles en consomment davantage ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont toujours très intéressées sur la catégorie. Les réseaux sociaux permettent de faire circuler l'information et de leur permettre de découvrir de nouvelles marques aussi, et d'avoir beaucoup de créativité, un aspect vraiment ludique des parfums, beaucoup de nouvelles formules, nouvelles gestuelles qui apparaissent, et des nouvelles tendances aussi véhiculées par les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit.
Ces jeunes mettent du parfum tous les jours ? C'était peut-être pas le cas des... des jeunes il y a quelques
années. Alors, on a tous les comportements, voilà. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne d'un parfum qui était signature avant.
Signature, ça veut dire quoi ?
On avait tendance à être fidèle à un parfum tout au long de sa vie.
D'accord.
Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt une garde-robe de parfums et on en change selon les occasions, le moment de la journée, l'émotion qu'on a envie de ressentir ou dans laquelle on se sent. Donc voilà, beaucoup d'accompagnements de différentes facettes.
Ça veut dire qu'on est plus connaisseur aussi
et
quand
on
arrive à faire ça.
On est plus connaisseur, tout à fait.
Vous êtes très connaisseuse. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous êtes à Toulouse.
Je suis à Toulouse.
Vous avez fait une école de parfumerie, c'est pour ça que je me permets de dire que vous êtes très connaisseuse. Nous vous écoutons Sophie.
Alors, j'ai vu un reportage il y a 2-3 jours, rapidement, et hier j'ai voulu faire un test. Je me suis dit, il ne faut pas que je meure idiote. J'ai pris mon échantillon d'un parfum super connu. Et je suis allée dans une chaîne qui vend des... Donc, alors, ce que moi, j'appellerais des contrefaçons, mais qui vend des dupes. Mmh. Alors, pas complètement à l'aveugle, puisque je savais ce que moi j'avais amené. Mais j'ai fait le test. Et voilà, et en parlant avec les vendeuses, leur argumentaire, j'ai trouvé qu'il était beau, enfin, il était bon. Donc, elles jouaient leur rôle. Elles mettaient vraiment en avant le côté économique. C'est-à-dire que le parfum était, alors je n'ai pas regardé vraiment, mais je pense que c'est de l'ordre de 10 fois moins cher.
D'accord.
Il n'y a pas le même flaconnage, etc. Par contre, à l'aveugle, moi je peux vous dire que je n'ai testé qu'un parfum, mais j'ai une vraie collection. J'ai tout de suite reconnu, entre guillemets, le vrai et le faux.
D'accord. Vous avez fait la différence entre l'original et le dupe. Oui. D'accord.
Et le dupe, ça, sans problème. Après, je pense que ça, c'est dû aussi au fait que ce soit alors, techniquement reproduit par chromatographie, mm-hmm. j'imagine. Et ensuite, j'ai trouvé que... D'abord, je trouve dommage que les formules ne soient pas protégées légalement, mais j'ai entendu qu'il y avait une avocate. Donc ça, pour moi, c'est vrai. Je pense que c'est un problème.
Ça fait beaucoup de questions. Et je suis obligé de vous couper parce qu'on a beaucoup d'appels, Sophie, et puis il faut qu'on entende les explications de Stéphanie Berland, mais on a entendu, alors, selon vous, pas une grande différence, et vous interrogez sur la protection. Alors d'abord, Stéphanie Berland, vous qui êtes avocate, les dupes, ce sont donc des parfums qui s'approchent de ceux des grandes marques, qui sont très proches, mais qui sont développés par d'autres marques.
Oui, tout à fait. Le phénomène des dupes qui a pris une ampleur importante avec les réseaux sociaux, c'est vraiment d'essayer de mettre en parallèle un parfum connu qui a été créé par une maison avec l'aide de créateurs qu'on appelle les nés et de dire que finalement vous allez avoir un parfum approchant et que finalement pourquoi acheter celui de marque et pas celui de cette autre marque qui est généralement moins cher.
C'est comme développer une recette de cuisine, par exemple. Je connais la recette d'un grand chef, j'essaye moi-même de la faire à partir d'ingrédients et j'y parviens ou j'y parviens moins. Mais en tout cas, j'essaye.
Oui, tout à fait. Il y a ce parallèle souvent que l'on fait en matière de protection entre le parfum et les recettes de cuisine. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses affaires pour essayer de voir si on pouvait protéger, puisque je comprends que votre auditrice s'interrogeait
sur... Elle se demande si c'est légal.
Voilà, si c'est légal. Et c'est vrai que la Cour de cassation, il y a maintenant de nombreuses années, à plusieurs reprises, a dit que le parfum, la fragrance du parfum en tant que tel n'était pas protégeable, considérant dans un premier temps qu'on était dans la mise en œuvre d'un savoir-faire et puis faisant un peu évoluer son analyse pour venir dire finalement on est dans des dimensions finalement difficilement identifiables de manière précise et c'est ça qui bloquait la protection. Mais si le parfum en lui-même, la fragrance n'est peut-être pas protégeable au sens de, voilà, avec tout l'attirail juridique que l'on peut trouver, il y a quand même souvent l'utilisation de marques ou l'imitation de flacons ou des codes finalement d'identification qui sont repris par ces marques-là pour expliquer aux gens, ben, vous allez peut-être trouver le similaire et c'est là où on peut retomber dans la contrefaçon.
Alors la contrefaçon, c'est autre chose. C'est proposer un flacon, un nom qui est approchant de celui d'une grande marque alors qu'on n'est pas du tout sur le même produit.
Exactement, et c'est d'essayer de se placer, on est presque, il y a la contrefaçon, mais on est aussi dans la dimension de parasitisme, c'est-à-dire on va se mettre dans le sillage de cette marque, profiter de ses investissements pour vendre finalement quelque chose d'approchant qu'on n'aura pas fait l'effort de développer.
Mais ce phénomène de dupe qui prospère beaucoup, de plus en plus, il fait perdre beaucoup d'argent à ces marques, Dior, Chanel, Lancôme, entre autres.
Alors là-dessus, moi je suis avocate, hein. Je n'ai pas effectivement d'éléments chiffrés.
Non mais vous chiffrez le préjudice de vos clients quand vous les défendez.
Non mais ce que l'on sait, c'est que la contrefaçon au sens large, c'est un vrai fléau. Ça représente finalement des milliards, et on parle du parfum aujourd'hui, mais ça vaut dans tous les secteurs, ça vaut aussi dans les crèmes de beauté, par exemple, pour lesquelles on peut avoir des problèmes aussi de produits, d'ingrédients dans les produits. Donc voilà, c'est aussi, il y a au-delà de la dimension dommage-intérêt, il y a aussi les risques que ça peut faire peser.
Et ces dupes, ils se développent très vite, c'est-à-dire une marque sort un produit, il est très rapidement copié.
Alors j'ai l'impression, moi je ne suis pas au quotidien ce phénomène, mais j'ai l'impression qu'effectivement, très rapidement, un peu comme dans la mode d'ailleurs, vous avez certaines marques qui se font une spécialité de s'insérer dans ce sillage des marques établies.
Et les clients et les clientes en sont très friands manifestement. Philippe est avec nous et nous appelle du département de la Manche. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oh, moi, je voulais simplement dire que je ne suis pas pour la contrefaçon, mais j'ai souvenir d'eau de toilette grande marque qui valait il y a quelques années les 100 millilitres, 70-80 euros. Maintenant, il n'y a rien à moins de 150. On sort des lignes de prestige et il y a même une maison de l'avenue Georges V qui a sorti une eau de toilette à 270 euros. Mmh. Donc, dorénavant, je me fournis dans les grandes surfaces.
Vous allez offrir du parfum ou acheter du parfum pour les fêtes, Philippe ?
Non, c'est trop cher.
C'est trop cher. Merci, Philippe, pour votre témoignage. Agnès Bricio, vous qui représentez l'enseigne Sephora, il y a eu une augmentation très forte des prix ces dernières années. Philippe nous parle de 80 euros, 270 euros aujourd'hui.
Alors je pense que chez Sephora, on a toujours eu à cœur d'avoir une offre qui soit très diversifiée pour justement répondre à un maximum de besoins clients. Donc on a, enfin voilà, nous on est distributeur de marques, donc on a les grandes marques et puis on a aussi des nouvelles marques, beaucoup de nouvelles gestuelles dont on a parlé, des brumes, des petits formats qui rendent le parfum aussi beaucoup plus accessible. Donc aujourd'hui, vous avez un flacon chez un parfum Kayali par exemple chez nous, un 10 ml qui est autour d'une trentaine d'euros. Donc on a vraiment de l'offre à un peu tous les prix.
Oui, mais pas forcément avec la même quantité qu'il y a quelques années.
Non, mais ouais, ça, voilà. On laisse le client faire son choix.
Ça veut quand même dire que le prix a augmenté. Qu'est-ce que vous dites à une cliente qui vient vous voir et qui vous dit « Votre Dior, votre Guerlain, votre Lancôme, il est vraiment très cher. Je peux avoir le même parfum, très proche, mais pour 5 ou 10 fois moins cher, sous une autre marque. » Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bah, là, je pense qu'on va lui dire que son choix lui appartient, hein, et lui proposer d'autres options, d'autres alternatives, peut-être d'autres marques qu'elle va découvrir et qui n'auront pas forcément le même positionnement prix.
Toujours sur cette question du prix, il y a aussi des écarts qui sont extrêmement importants pour le même article dans une enquête qui a été publiée en mai dernier. L'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir mettait en lumière des écarts de prix entre plateforme jusqu'à 58%. Il prenait l'exemple de La Vie est Belle de Lancôme. Les 100 millilitres vendus en ligne sur un site, 153 euros par un distributeur et 89 euros ailleurs. Ça fait plus de 60 euros d'écart pour le même produit. Comment est-ce que c'est possible ?
Alors là, je ne saurais pas vous répondre parce que ça sort de mon domaine d'expertise. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que chez Sephora, toutes les marques sont agréées pour être chez nous. Donc, on se sert effectivement chez les marques de manière officielle. Et après, la politique de prix appartient à chacun. Chez Sephora, c'est vrai que nous, on valorise les produits exclusifs et plus de la moitié de nos produits sont en exclusivité. Ça veut dire qu'on ne peut pas les trouver.
Oui, on les trouve que chez vous.
Voilà, on les trouve que chez nous. Donc, il n'y a pas cette problématique.
Mais vous comprenez que ça puisse interroger le consommateur, qui est 60 euros d'écart pour un même produit sur deux sites différents. On se dit qu'à un moment, il y a une marge qui est faite par quelqu'un dans la distribution.
Ouais, là, je ne pourrais pas commenter.
Bon. Quelles sont les tendances ? On est à quelques semaines des fêtes. Les achats se font en ce moment, même si Philippe nous a dit qu'il n'allait pas y succomber pour ce qui est de son cas. Agnès Bricio, quelles sont les tendances ou le parfum le plus vendu en ce moment ?
Alors les grandes tendances, c'est vraiment des nouvelles familles olfactives, je dirais les parfums gourmands, les notes de vanille, voilà, on retrouve beaucoup les pistaches, le caramel, tout ce qui est assez régressif, sont très prisés par nos clientes.
C'est régressif le caramel ?
Ouais, c'est régressif. Tout ce qui se mange, tout ce qui se mange nous renvoie quelque part en enfance et ça nous réconforte beaucoup. Les notes florales fruitées aussi. Je pourrais parler des nouvelles gestuelles et puis de cette tendance du layering qui est vraiment la personnalisation ou la superposition de parfums différents pour créer un parfum unique sur sa peau. Et ça, c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit grandissante, portée aussi par les réseaux sociaux et la nouvelle génération et ces nouvelles marques qui rendent justement très ludique l'approche du parfum, finalement.
Ça veut dire créer un peu son propre parfum,
exactement,
en fait.
Exactement. Voilà, la composition qui nous convient à un instant T.
Mais ça veut dire aussi qu'il faut acheter deux parfums, donc il faut quand même avoir...
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de brumes parfumées, des petits parfums qui permettent justement de jouer sans forcément se ruiner. Donc il y a plein d'alternatives, plein de positions.
Beaucoup de marques s'adossent à l'image des stars. Est-ce qu'il y a quand même des clients qui viennent vous voir en vous disant « je veux par exemple le parfum de Rihanna ». Est-ce que ça fonctionne ?
Pas toujours, hein. Les clientes restent responsives à la communication, mais ça dépend vraiment des clientes et on a de tout. Nous, on s'attache vraiment à avoir des marques qui sont aussi portées par des fondateurs et des fondatrices, qui sont capables de créer une connexion avec leur communauté et voilà, pas forcément être connue comme Rihanna, mais Rihanna a ses fans.
Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Agnès Briciot de l'enseigne Sephora, directrice monde de l'offre parfum. Merci également à Stéphanie Berland, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton avec notre patrouilleur, Alain Munda, qui sillonne les autoroutes du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône pour la société Vinci. C'est un métier dangereux car confronté chaque jour au mauvais comportement des automobilistes. On le retrouve dans son fourgon.
Voilà, mais ça typiquement, voilà, ça c'est interdit sur l'autoroute. Là on a deux véhicules, donc il y en a un qui est tombé en panne, donc il aurait dû faire appel à un dépanneur. Et finalement c'est un collègue à lui qui est intervenu et il est en train de le tracter avec une barre, certainement à une vitesse de 50 km/h, donc qui est potentiellement très dangereux, donc ça c'est strictement interdit. C'est interdit sur l'autoroute, hein ?
Ouais, c'est trempé de route.
Vous avez la chance que la gendarmerie vous a pas vu. Bon, vous allez me suivre, je vais vous faire passer par l'intérieur là-bas. Le problème, c'est que les gens se croient au-dessus de tout. J'ai eu un cas ce week-end où c'est aberrant. Donc je m'arrête sur l'autoroute dans un refuge et il y avait quatre jeunes et donc ils avaient bien bu tous les quatre. Ils étaient en panne de carburant. Donc je m'arrête et il me dit non mais c'est bon, j'ai un collègue qui arrive avec un bidon. Donc je m'en vais, je continue ma tournée et peu de temps après, le PC m'appelle pour m'indiquer un contresens. Et en fait, c'était les jeunes qui étaient là, qui étaient partis récupérer un bidon sur l'aire de Marguerite. Comment on peut avoir une telle inconscience de se mettre en danger, de mettre en danger les autres? Et le temps que j'arrive, bien sûr, ils étaient partis. Alors, la chose qui a complètement explosé là depuis, ouais, c'est à peu près un an, là, c'est le protoxyde d'azote. Donc là c'est nouveau, c'est à la mode, des jeunes là, donc ils se shootent avec ça, c'est des petites bouteilles de gaz hilarant, donc ils prennent ça dans leur voiture, ils se shootent à ça, et le problème c'est que ça leur bouffe les neurones, et quand ils conduisent après au volant, ils sont vraiment inconscients, ils sont comme s'ils étaient sous l'effet d'une drogue. Et le truc qui est vraiment très dangereux aussi, c'est que ces jeunes, ils l'utilisent et après ils les jettent sur la voie. Sauf que ça veut dire qu'en roulant, n'importe qui peut le percuter, l'envoyer dans l'autre sens et provoquer un grave accident. Alors, on en ramasse à peu près une dizaine par semaine sur l'autoroute. Mais nous, on aimerait bien que les clients fassent un peu plus d'attention. En regardant la route, là, nous sommes en ce moment à 40 fourgons percutés depuis le début de l'année, ce qui fait à peu près un fourgon par semaine. Au moment où le fourgon s'est fait percuter, c'est que le client ne regardait pas la route, soit il discutait avec quelqu'un à côté, soit il était sur son téléphone, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne regardait pas la route, parce que s'il regardait la route, il nous aurait vus. À 130 km/h, comme je vous disais tout à l'heure, on fait, en 2 secondes, on fait 72 mètres. Donc un simple regard sur un téléphone, ça prend 2-3 secondes. Donc en 2-3 secondes, on a fait plus de 100 mètres. Donc ça veut dire que si le véhicule devant vous freine, eh bien vous le verrez au dernier moment. Gardez les yeux sur la route et peut-être qu'un jour, les fourgons arrêteront d'être percutés.
La vie d'un patrouilleur toute cette semaine dans ce 13-14, suite et fin demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h49, la France à table avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Vous nous parlez, Marie-Luce, aujourd'hui d'un produit des fêtes dont la France est un très gros producteur.
Cela vous étonnera peut-être, mais il s'agit du caviar, en très grande partie produit dans le Sud-Ouest, et qui a même obtenu cette année une indication géographique protégée, preuve de sa qualité. Autre surprise, nous sommes après l'Italie et la Chine, le troisième acteur mondial.
Comment est-ce qu'on s'est mis à produire du caviar en France ?
Une chose est sûre, tout a débuté dans un village de pêcheurs qui compte aujourd'hui 596 habitants, Saint-Seurin-d'Uzet en Charente-Maritime. Ce qui semble plus fantasque, c'est l'histoire qu'on raconte. Une princesse de la famille des Romanov aurait fui la révolution bolchévique de 1917 et aurait débarqué dans ce village perdu. Elle aurait observé, consternée, que les bateaux ramenaient des esturgeons sauvages à l'appel, mais que les mareyeurs jetaient le plus précieux, leurs œufs. Elle leur aurait transmis des clés pour les exploiter. Cette dame à la chevelure de sirène a-t-elle existé ? C'est assez flou, mais dans ce village en bord d'estuaire de la Gironde, on garde la trace d'une production artisanale de caviar jusqu'à la fin des années 50.
Et alors, que s'est-il passé après ?
Bien après, comme partout dans le monde, à la fin des années 80, on prend conscience que ces poissons sont en voie de disparition. La France restreint puis interdit en 2008 la pêche de l'esturgeon d'Europe, le sturio, mais déclenche sa sauvegarde en adaptant l'espèce à l'eau douce. Dans les années 90, trois passionnés relancent des élevages. Ils sont désormais quatre mousquetaires à produire du caviar d'Aquitaine sous le label de l'IGP. On recense trois autres éleveurs en Dordogne et en Sologne. Leur rendement est donc minuscule, de l'ordre de 50 tonnes, face à la Chine, qui est devenue en 15 ans, grâce à des investissements d'État faramineux, l'ogre de cet or noir avec 550 tonnes par an. Parallèlement, la fin de la pêche de l'esturgeon sauvage et les soubresauts politiques ont totalement effacé du paysage la Russie et l'Iran.
Alors, ce caviar français est-il différent des autres ? A-t-il quelque chose que les autres n'auraient pas ?
Un cœur en bouche crémeux, un goût de noisette et une touche finale très iodée, défend Laurent Dulot, infatigable ambassadeur à la tête de Sturia, la principale société française. On n'a pas le temps ici de rentrer dans le détail, mais les éleveurs du pays ont, après le Sturio, acclimaté de nombreuses variétés, dont le fameux Beluga, atteignant des prix faramineux.
Oui, mais ça, le prix, c'est quand même un gros sujet. Vous avez un prix à nous donner, Marie-Luce ?
Ah, on peut aller jusqu'à 10 000 euros, mais d'accord, avec une boîte de 15 grammes. En entrée de gamme, vendue à moins de 40 euros, on peut vraiment s'amuser. Bon. Dans les restaurants, les chefs du Sud-Ouest et les étoilés de la Jeune Garde ont adopté ce caviar 100% français. Christian Etchebest, originaire de Pau, à la tête de la cantine du Troquet Duplex à Paris, en a toujours à la carte au moment des fêtes et il aime le déguster très simplement.
Ce qui nous amène à notre recette.
On va la faire avec des pommes de terre et de la crème. Pour une assiette, faites cuire dans de l'eau salée trois pommes de terre rates. Coupez-les dans le sens de la longueur. Préparez un beurre blanc en faisant ébouillanter puis réduire aux deux tiers une échalote dans un peu de vin blanc sec. Ajoutez en copeaux au fur et à mesure 60 g de beurre salé, poivré. Faites snacker une coquille Saint-Jacques et préparez quelques feuilles d'épinards revenues 2 minutes dans du beurre noisette. Composez l'assiette avec la Saint-Jacques, son filet de beurre blanc, la verdure et les pommes de terre tièdes posées en rosace, surmontées d'une quenelle de crème fraîche bien épaisse et, clou du spectacle, d'une cuillerée de caviar. Une petite boîte suffit pour 6 personnes et pas besoin de l'accompagner de vodka, un blanc sec de Bourgogne ou Bordeaux fera très bien l'affaire.
C'est la boîte à moins de 40 euros dont vous nous parliez.
Exactement.
Merci Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest chaque jeudi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric, est à la fois comédien, humoriste, animateur, auteur, metteur en scène et j'en passe, il s'agit d'Alex Good.
Alex Good, co-auteur de deux spectacles qui cartonnent en ce moment à Paris. Le premier s'appelle Ménopause, le second s'appelle Tout va mal. Il se joue sur la scène du Grand Point Virgule. Et c'est Je t'aime, Jérôme, qu'il a souhaité que l'on écoute Je t'aime, l'un des tubes de Lara Fabian.
Quand Je t'aime est sorti, à l'époque j'étais encore complètement hétérosexuel, et j'avais une copine, et je me rappelle que j'ai fait une démonstration de cette chanson absolument formidable. Après ça, on était partis en vacances. C'est amusant parce que ça correspond aussi... Alors la plus grande idole de ma vie, c'est Michael Jackson, et qui a sorti au même moment History, son gros album, et je passais l'été à écouter l'album pur de Lara Fabian et l'album History de Michael Jackson. Je passais d'un extrême à l'autre, du français à l'anglais en permanence, parce que c'était sur Pure, un album incroyable d'ailleurs. Le dernier de Lara est aussi incroyable. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille grandement.
Cet album Pure, vous l'avez acheté ?
Ah ben bien sûr ! Je l'écoutais dans la voiture. Voilà, à l'époque, c'était des cassettes, c'était même pas des CD. Donc c'est une chanson qui a assez marqué ma vie, au point d'ailleurs que je l'ai mise dans un de mes spectacles, Ménopause, qui joue en ce moment. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lara Fabian, parce que je lui ai dit, bah, venez voir le spectacle, j'ai mis une de vos chansons dedans. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lara.
Et la rencontre s'est passée de quelle manière ?
Ah ben super bien, on s'est rencontrés, on devait boire un verre, finalement on a passé 3h30 ensemble. Discuter de la vie, de l'amour et du reste. Voilà, et c'est une personne incroyable, enfin c'est quand même un génie.
D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille au moins souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager.
C'est en 1997 qu'est sortie cette chanson en France, Frédéric.
Une chanson qu'Alex Good a entendue de multiples fois en concert.
Quand elle fait cette chanson sur scène tous les soirs, moi j'ai des frissons invraisemblables. Voilà. Et ce qui est génial avec cette chanson, c'est que tout le monde lui demande de la chanter depuis 30 ans maintenant, parce que ça fait 30 ans, c'est pas rien. Mais elle le dit elle-même, elle te dit « mais quand vous voulez que je me lasse de dire les trois plus beaux mots de l'univers ?» Voilà, elle adore chanter cette chanson, c'est assez dingue.
Lara Fabian, on s'est beaucoup moqué d'elle quand elle est arrivée dans le paysage de la chanson en France. Est-ce que vous trouvez qu'on a été très injuste avec elle ?
On a été extrêmement injuste, extrêmement injuste. Mais c'est toujours à cause de cette voix. Il y en a qui disaient qu'elle criait, par exemple. Mais non, elle crie pas, elle chante. Et cette capacité vocale qui, moi, me fascine, moi, je pars du principe, mais t'aimes pas. Personne te force à écouter. Enfin, je sais pas. Tout quelqu'un qui n'est qu'amour, comme elle, je trouve ça hyper violent, en fait.
D'accord, je t'ai confié tous mes sourires.
Cette chanson-là, vous disiez que vous l'aviez chantée à votre copine de l'époque.
Ouais, de l'époque.
Quand la chanson est sortie.
Ouais.
Et après, vous avez continué à la chanter ?
Ah ben, je l'ai chantée tout le temps, même à mes copains, après, parce qu'après, j'ai viré ma cutie, comme on dit, changé de bord. Et oui, je l'ai chantée aussi à des garçons. En plus, ça marche bien quand t'es une fille ou quand t'es un garçon. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi. Comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça.
Est-ce qu'il vous est arrivé de chanter cette chanson à quelqu'un qui vous a répondu « ben moi je t'aime pas » ?
Alors non, Dieu soit loué, non. T'imagines le four, je t'aime pas. Ce serait dur quand même, c'est hyper violent. Non, j'essaie de faire attention quand même. C'est pas des mots que tu dis à n'importe qui. Dans ma vie, j'ai été vraiment amoureux 6 fois.
C'est pas si mal.
C'est pas si mal en fait sur 50 ans.
Je t'aime, vous le dites aussi à votre fils.
Ah oui, ah bah oui, ça évidemment. À mon fils, à ma maman, à mon chien. Voilà. Mais Elliot connaît la chanson pour le coup. Il l'a déjà entendu plein de fois dans la voiture.
Et le chien aime bien la chanson également ?
Alors le chien aime toutes les chansons. Et Lara, elle a une voix qui peut te soigner de plein de mots avec ses mots. Et voilà, donc je pense qu'il aime bien.
Elle soigne aussi les animaux ?
Bah peut-être.
C'est incroyable le pouvoir qu'elle a.
Mais cette voix a un pouvoir incroyable. Non mais objectivement, cette voix est incroyable.
Je Totem, Lara Fabian. C'était donc, Frédéric, le choix d'Alex Good.
Alex Good, dont vous pouvez voir actuellement deux spectacles au Grand Point Virgule à Paris, Ménopause et Tout va mal, qui se joue jusqu'au 29 mars.
Merci Frédéric et à demain. Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire à suivre.